France Culture.
Le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Israël et le Hamas ont donc officiellement signé ce matin l'accord de cessez-le-feu conclu la veille. Sera-t-il de nature à mettre un terme définitif à la guerre? Nous serons à Jérusalem dès le début du journal, mais aussi en Cisjordanie pour recueillir les premières réactions. Le nom du prochain locataire de Matignon va changer, il devrait même être connu d'ici à 48 heures. Il s'agira du 8e chef du gouvernement en 8 ans. Alors certains y verront peut-être une forme de constance dans la confusion. On tâchera d'éclaircir les trois options a priori encore possible pour le chef de l'État. En attendant, Emmanuel Macron présidera ce soir la cérémonie d'hommage à l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, avant son entrée au Panthéon. On en parlera avec notre invité, puis nous serons en direct de la cour d'assises du Gard, après que l'avocat général a réclamé ce matin une peine de 12 ans de réclusion contre le seul accusé des viols de Gisèle Pélicot à avoir maintenu son appel. Après deux années d'une guerre abominable, comment ne pas saluer l'espoir enfin ravivé d'un possible cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas? Hier soir, les deux belligérants qui s'étaient promis une mort certaine se sont a priori entendus sur la mise en œuvre de la première phase du plan de paix américain, lequel prévoit la libération de tous les otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, de même qu'un meilleur accès, sinon un accès tout court de l'aide humanitaire dans le territoire dévasté. Est-ce que les deux exemples précédents de trêve déjà conclu entre les deux camps impose nécessairement de rester au mieux prudent toute la nuit dernière? D'ailleurs, la bande de Gaza a continué d'être pilonnée. L'armée israélienne a même enjoint la population gazaoui déplacée à ne pas chercher à regagner tout de suite le nord de l'enclave. Quid par ailleurs de la ligne de retrait de l'armée israélienne? De son côté, le mouvement islamiste n'a pas mentionné son propre désarmement. Enfin, parce que l'arrêt de la guerre signifierait inévitablement la reprise des ennuis judiciaires pour Benjamin Netanyahu, rien ne permet pour l'heure d'affirmer que cet accord mènera bel et bien à la fin de toutes les hésitations idéologiques et à une paix durable, voire éternelle, selon les propres mots de Donald Trump. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, seule certitude pour l'instant, cet accord a bien été formellement signé il y a un peu plus de deux heures maintenant en Égypte.
Oui. Accord signé 10 heures, très exactement après sa validation formelle cette nuit et accueilli, vous l'imaginez bien, avec beaucoup d'enthousiasme à Gaza.
La trêve a commencé, on entend des coups de feu, des tirs.
Avec ces coups de feu en l'air enregistrés par notre journaliste à Deir el-Balah, c'est dans le centre de Gaza, il s'appelle Nabil Diab. Alors ce n'est pas le plan Trump que célèbrent les Palestiniens de l'enclave, mais son premier volet qui concerne seulement l'échange d'otages et de prisonniers. 20 Israéliens présumés vivants, quelques dépouilles parmi les 28 morts, contre 2000 détenus palestiniens, dont 250 qui purgent des peines de prison à vie. L'échéance a été fixée à lundi par Donald Trump, mais elle pourrait intervenir plus tôt.
En tout cas, rien n'indique pour le moment du moins que ce processus, Thibault, pourrait dérailler dans les prochaines heures.
Alors vous le savez Thomas, il faut toujours rester très prudent au Proche-Orient. Mais non, pour le moment, le calendrier est assez clair. 16h, heure française, réunion du cabinet de sécurité israélien, suivi du cabinet élargi. Simple formalité a priori, puisque l'extrême droite, défavorable à l'accord, n'a pas de capacité de blocage. La suite, c'est le retrait des troupes israéliennes sur une ligne déterminée par Donald Trump il y a 4 jours. Et qui encercle à l'intérieur de Gaza plus de 2 millions de Palestiniens. Ce matin, l'armée de l'État hébreu occupe les trois quarts du territoire. Demain, si tout va bien, il maintiendra ses soldats sur un peu plus de 50%.
Et s'agissant des Gazaouis, Thibault, que l'on entendait tout à l'heure, est-ce que leur vie est susceptible sinon de changer, de s'améliorer grâce à ce plan ?
Bon, disons que ça va un petit peu mieux à Gaza, ou moins mal, disons, depuis que l'ONU a annoncé fin août que l'enclave était en proie à la famine. Depuis, les Américains ont sans doute pris conscience, à ce moment-là, en tout cas, du drame qui se jouait, et ils ont permis à environ 300 camions par jour de rentrer, ce qui reste évidemment insuffisant. La conséquence, c'est qu'il y a un peu plus de nourriture sur le marché, même si les denrées de base restent très chères. En revanche, les plus vulnérables ne s'en sortent pas, et notamment les enfants qui souffrent de malnutrition. Avec les derniers déplacements forcés du nord au sud de Gaza et puis les destructions des centres de santé, le suivi médical est très compliqué. Il y a encore aujourd'hui dans l'enclave des bébés entre la vie et la mort.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Alors on l'a dit, la signature ce matin de cette première phase de l'accord de paix proposé par Donald Trump comporte en réalité de très nombreuses zones d'ombre, d'où l'espoir encore prudent des Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée, comme a pu le constater notre correspondant à Ramallah, Lucas Lazo, reportage.
Je suis très 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 heureux. Ce sont les yeux rivés sur son téléphone à l'affût des moindres nouvelles qui filtrent de Gaza qu'Amoudé, soulagé, ouvre sa boulangerie ce matin.
La fin de la guerre, c'est la fin des effusions de sang et des pertes humaines. Nous souhaitons maintenant que Gaza puisse se reconstruire. Ils auront besoin du soutien des pays arabes.
Un soutien de la communauté internationale salué par ce professeur d'anglais en route vers son travail.
Merci Trump, merci aux pays arabes et à la Turquie qui ont contribué à la conclusion de cet accord. Il était temps que cela arrive, Dieu merci, ils ont souffert pendant deux années entières.
La pression de la Turquie sur le Hamas et des États-Unis sur Israël aurait permis d'accélérer les négociations pour aboutir à cet accord, mais la méfiance est de mise pour Hamid à tabler un café.
L'expérience d'Israël dans ce domaine est complètement folle, vous savez. Je veux dire, à chaque fois, ils ont leur propre interprétation de l'initiative. Si vous regardez ce qu'il s'est passé en Syrie et au Liban, vous allez voir ce qu'il va se passer à Gaza.
Ici, en Cisjordanie, les habitants ont en mémoire le précédent cessez-le-feu brutalement interrompu en mars dernier par la reprise des bombardements de l'armée israélienne sur l'enclave.
Un reportage à Ramallah signé Lucas Lazo.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
De 48 heures en 48 heures, à l'issue des deux jours que lui avait donné le président pour mener une ultime négociation, Sébastien Lecornu, invité hier soir du 20h de France 2, a considéré sa mission terminée avant de laisser entendre que Emmanuel Macron nommerait un nouveau Premier ministre dans les 48 heures, on compte invariablement, donc la balle revient dans le camp d'Emmanuel Macron, dos au mur. Alors sans avancer de nom à son successeur, le Premier ministre démissionnaire s'est montré plutôt confiant quant à la possibilité de trouver une issue à la crise, sans toutefois préciser d'ailleurs quelles avancées lui permettraient de croire en la possibilité d'un compromis. Tout juste, Sébastien Lecornu a-t-il évoqué la nécessité d'un futur débat sur la réforme des retraites, sans pour autant pouvoir s'y engager formellement. En réalité, la seule certitude avancée par le chef du gouvernement démissionnaire est qu'il existerait aujourd'hui une majorité absolue à l'Assemblée contre une nouvelle dissolution. Alors partant de là, quelles sont les options qui s'offrent désormais au chef de l'État pour déterminer qui s'installera à Matignon ? Il en existerait au moins trois, Rosalie Lafarge.
La gauche veut croire son tour venu et Emmanuel Macron peut choisir un profil de gauche. La question, toujours la même, c'est par qui sera-t-il soutenu ou au moins non censuré à l'Assemblée ? Socialistes, écologistes, communistes et insoumis sont 195 au Palais Bourbon. Seront-ils tous d'accord ? Rien ne le garantit. Et il en faudrait près d'une centaine de plus dans le bloc central, chez les non-inscrits ou au groupe Liotte pour décider de lui laisser sa chance. Tout dépend de ce qu'on trouverait dans son budget, dit déjà un élu macroniste qui voit bien que si la suspension de la réforme des retraites fait partie du tableau, de nombreuses voix dans son groupe manqueront à l'appel. Deuxième option, choisir encore quelqu'un dans le bloc central. Hier, Sébastien Lecornu a laissé entendre que le socle commun n'était pas mort. 210 députés, cette fois, à l'Assemblée. Mais là aussi, la menace de ne pas faire le plein, côté LR notamment. Malgré tout, l'hypothèse prospère dans le camp du président, où on l'imagine même reconduire celui qui considère pourtant sa mission terminée, Sébastien Lecornu donc, au risque d'apparaître plus entêté que jamais et de renforcer la volonté de censure sur tous les bancs de l'opposition. Troisième voie possible, celle d'un profil apolitique ou au moins sorti du circuit partisan. Encore faut-il trouver le volontaire et qu'il ait les clés pour affronter le Parlement. Il n'y a pas de bonne solution, tranche déjà un proche du président qui ne voit tout simplement pas comment négocier une non-censure à droite et à gauche en même temps. On va dans le mur, souffle-t-il. On a juste, avec ce nouveau délai, repoussé l'impact.
C'est aujourd'hui que Robert Badinter, l'artisan notamment de l'abolition de la peine de mort, fait son entrée au Panthéon.
Oui, 20 mois après son décès, une cérémonie solennelle présidé par Emmanuel Macron est prévu ce soir pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Paul Lecassia, professeur de droit public à l'Université Paris et un Panthéon Sorbonne, également auteur de Robert Badinter, un juriste en politique réédité ces jours-ci chez Fayard. Bonjour monsieur.
Bonjour Thomas.
Avant de revenir sur la vie de Robert Badinter, on l'a appris il y a quelques instants, des inscriptions injurieuses ont été retrouvées ce matin même sur sa pierre tombale en région parisienne. Première réaction.
C'est celle de l'effroi. C'est une nouvelle que je viens d'apprendre qui glace le sang et qui évoque de mauvais souvenirs. Tout au long de sa vie professionnelle, tout au long de ses engagements, Badinter a subi des injures, des menaces, des outrances, des calomnies. Et elles l'auront suivi jusqu'au bout, jusqu'au jour de sa panthéonisation. C'est épouvantable.
Dans un texte daté du 26 août dernier, ajouté en préface donc de la réédition de la biographie que vous aviez fait paraître en 2009, vous évoquez, je vous cite, le contraste saisissant entre les valeurs défendues par Robert Badinter, mises à l'honneur donc par son entrée au Panthéon, et puis l'état de la société française où les droits fondamentaux sont de plus en plus attaqués à l'aune de ce contraste. Comment est-ce que vous comprenez donc cette panthéonisation ?
Eh bien, je la vois comme si on était dans l'œil du cyclone. En réalité, c'est un jour de grâce au milieu d'une tempête sécuritaire, d'une tempête d'atteinte aux libertés qu'on constate pas seulement au plan national, mais au plan mondial, en particulier dans des démocraties. Je pense surtout à la démocratie américaine. Ce jour de panthéonisation est essentiel parce qu'il nous permet de regarder, avec la pensée de Badinter, ce qui se passe chez nous et autour de nous, et de mesurer le recul considérable qui est porté petit à petit, grignotage après grignotage, jour après jour, à nos libertés publiques. Et tout ce en quoi Robert Badinter croyait, tout ce qu'il a porté, semble se défaire progressivement. Et c'est pourquoi sa panthéonisation est essentielle, parce qu'elle permet de remettre en quelque sorte la République au milieu du village.
Malgré tout, est-ce qu'il existe aujourd'hui des voix, selon vous, qui parviennent à poursuivre l'engagement qui fut le sien en défense des libertés publiques, de l'état de droit ?
Alors, il y a des voix. Et elles sont peu audibles, elles ne sont pas, en tout cas, très fortes dans le débat national. Il y a de multiples associations qui, au quotidien, portent les idées de Badinter, qui les portent dans la voie publique, sur la rue, en défense des minorités, qui les portent dans les prétoires pour porter les libertés publiques, mais ces voix ne sont pas représentées au plan national.
Parmi les très nombreux engagements de sa vie qui ont peut-être un peu été placés dans l'ombre de sa stature, évidemment, d'artisan de l'abolition de la peine de mort, on pourrait citer notamment celui en faveur des conditions de détention et pour l'humanisation de la prison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le sens de ce combat ?
Oui, pour Badinter, la prison ne devait pas être l'école, ce qu'il a dit, le séminaire du crime. Il a considéré qu'en l'état, la prison était un lieu d'enfermement, de punition pure, qui ne permettait pas de préparer la réinsertion du condamné, réinsertion nécessaire à partir du moment où la personne condamnée va sortir de prison. Donc il a considéré qu'il fallait que la prison, ce temps d'enfermement punitif, prépare la sortie. Et donc la prison devait être humanisée dans les conditions de détention, humanisée aussi du point de vue du personnel pénitentiaire, pour favoriser la réinsertion et pour éviter la récidive. Et donc, il a pris toute une série de mesures de type administratif, quand il était garde des Sceaux, pour essayer de procéder à cette harmonisation. Je vais donner un ou deux exemples. Le fait de faire entrer la télévision dans les prisons, de permettre les correspondances des détenus, de supprimer les hygiaphones, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un contact physique entre les détenus et sa famille, on le doit à Robert Badinter.
Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez intitulé donc votre biographie « Un juriste en politique » et on entend presque comme une forme d'opposition entre ces deux termes. Est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce que cette qualité de juriste a apporté à l'homme politique que fut Robert Badinter ?
C'était essentiel, c'est-à-dire que Badinter était un professionnel du droit. Et quand il est arrivé à la chancellerie, il avait vraiment la passion du droit. Badinter était avocat, il était aussi professeur de droit. Quand il arrive place Vendôme à la chancellerie, il ne découvre rien en termes juridiques. Tout son programme législatif était déjà préparé à la fois par ses engagements associatifs et par ses diverses activités professionnelles, qu'elles soient universitaires ou au barreau de Paris. Donc, étant un professionnel du droit, il savait, il avait les codes, si j'ose dire, pour changer la législation, pour changer la réglementation et afin de parvenir aux objectifs qu'il s'était fixés.
C'est comme ça qu'il est arrivé de plein pied en politique, alors même qu'il n'avait jamais été élu.
Oui, il a essayé d'être élu à quelques reprises, sans succès. Il était ce qu'on peut appeler un représentant de la société civile, un expert du droit. Et c'est pourquoi son parcours est très singulier. C'est le parcours d'un humaniste qui arrive en politique et qui quitte la politique en étant resté humaniste.
Et l'on terminera par ces mots. Merci beaucoup, Paul Cassia, donc professeur de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre donc de votre biographie, Robert Badinter, un juriste en politique, réédité ces jours-ci chez Fayard. Merci encore et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Un an après le procès des viols de Mazan, l'heure du verdict se rapproche pour le seul des 51 bourreaux de Gisèle Pellicot à avoir maintenu l'appel de sa condamnation.
Oui, c'est aujourd'hui que la cour d'assises du Gard doit trancher sur le sort de celui qui, durant ces 4 jours d'audience, aura persisté dans le déni. Ce matin, l'accusation a requis 12 ans de prison, de réclusion criminelle pour viol aggravé à l'encontre de Hussaméthine D. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Thomas.
Envoyé spécial à la cour d'assises à Nîmes, les plaidoiries de la défense se sont terminées il y a quelques minutes, une dernière fois. Elles auront tenté donc de faire entendre les arguments de l'accusé, déjà pourtant balayé en première instance.
Effectivement, Maître Mainvielle a d'abord pointé l'étiquette de menteur à coller depuis le début à son client, le laissant dans la sidération et axé la quasi-totalité de sa plaidoirie d'une heure et demie sur Dominique Pellicot, pervers XXL de ce dossier qui a manipulé Monsieur D à haute intensité. L'avocate réclame donc l'acquittement de son client tellement anéanti, dit-elle, qu'il en a développé une maladie auto-immune. Des arguments peu audibles après le long réquisitoire de l'avocat général Dominique Sier qui a requis 12 années de prison, soit autant qu'en première instance. Mais cette peine prend ici toute son acuité, appuie-t-il, face au manque de recul et à la rigidité d'un homme coupable. Coupable comme tous les autres d'avoir participé à l'œuvre de destruction massive d'une femme. Coupable de s'être inscrit dans la mise en œuvre de la culture du viol, dans un schéma déniant toute humanité à une femme, insiste le magistrat, qui tout au long de son réquisitoire a détricoté un à un les arguments convoqués par Hussaméthine D, recroquevillée sur sa béquille. On ne peut plus considérée en 2025 que parce qu'elle n'a rien dit, c'est qu'elle était d'accord, appuie Dominique Sier. On ne peut pas non plus invoquer le consentement par délégation du mari ou encore avancer la théorie d'un piège tendu par Dominique Pellicot qui n'exerçait pas non plus d'emprise sur l'accusé, lequel est resté excité jusqu'au bout, soutient l'avocat général, qui souligne que l'intention en droit, ce n'est pas le projet de commettre un acte, mais la conscience de l'acte au moment de la commission. La peine ne peut être qu'à la hauteur de la gravité des faits de Monsieur D, conclut le magistrat. Face à un accusé qui cautionne un fonctionnement social archaïque d'un autre âge, dit-il, et à l'image manifestement des plaidoiries de la défense.
Merci Julie Paco, en direct donc de la cour d'assises de Nîmes avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Elles avaient fait la une du journal Libération, c'était en novembre 2021. Elles se sont 8 femmes qui avaient non seulement pris la plume, donc, mais bien plus encore sans doute leur courage à deux mains pour accuser publiquement le journaliste Patrick Poivre d'Arvor de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement. S'en étaient suivis des dizaines de témoignages à l'encontre du journaliste jusqu'à sa mise en examen 3 ans plus tard pour le viol présumé de Florence Porcel, une accusation que PPDA a lui toujours contesté. Mais au-delà de cette enquête, cette affaire aura aussi marqué le début du MeToo Média, une libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans l'écosystème médiatique. Or, il se trouve que l'association née justement de ces révélations organisera ce soir les prix MeToo Média, une cérémonie inédite dont l'objectif, Jeanne Serrin, est de récompenser toutes celles et ceux dont le travail permet aujourd'hui de lutter contre la culture du viol.
7 prix seront décernés pour 7 catégories. Meilleur article de presse généraliste, de presse sportive ou encore meilleur reportage audiovisuel avec à chaque fois 4 finalistes sélectionnés parmi des centaines de reportages et d'enquêtes.
Pour tout ce qui est presse, c'était foisonnant.
Emmanuelle Dancourt est présidente de l'association MeToo Média, une sélection foisonnante pour une année rythmée par de nombreuses affaires. Le procès de Joël Le Squarnec, de Gérard Depardieu et surtout celui de Dominique Pellicot, l'affaire des viols de Mazan a été un déclic pour de nombreuses rédactions, observe Emmanuel Dancourt.
Les journalistes avaient l'air de s'étonner que les 51 mis en cause étaient des monsieur tout le monde, ce qui n'est absolument pas nouveau dans les affaires de VSS. On passe notre temps à le crier sur les toits. Les monstres, à la base, n'existent pas.
Ces dernières années, la journaliste salue des évolutions.
Crime passionnel, baiser volé, tous ces mots-là, on a tellement tapé sur les rédactions que ça disparaît doucement. Mais on note que les journalistes se forment de mieux en mieux sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, comment bien interviewer un mis en cause, comment bien interviewer une victime, parce que ça c'est souvent très problématique, bien connaître la justice, c'est de mieux en mieux fait.
Mais face à l'avalanche de nouveaux témoignages, il est aujourd'hui plus difficile de médiatiser une affaire, constate Emmanuel Dancourt, d'où l'importance de cette cérémonie, d'après la journaliste, qui appelle à faire des sujets de VSS des priorités éditoriales. Son association plaide ainsi pour instituer dans chaque rédaction un gender editor.
Un gender editor, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les questions de genre, dans les questions d'égalité femmes-hommes, dans les questions de violence sexiste et sexuelle. Et là, ce serait une vraie révolution.
En France, la rédaction de Mediapart est la seule à avoir créé un poste dédié uniquement à ces questions.
Je précise que la cérémonie de remise des prix aura donc lieu ce soir à 19h au Théâtre de la Concorde à Paris. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi voilé du sud-ouest au centre-est ainsi que sur le quart sud-est. Partout ailleurs, le ciel devrait accueillir de belles éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Fabien Etchecopar. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.